Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Il est temps d'éteindre vos téléphones un instant et de vous connecter à la radio pour suivre ces nouveaux numéros de YouJob. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes le bienvenu à cette discussion que je vais faire ce soir avec un jeune de 20 ans mais qui impressionne dans les domaines du digital et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre invité est un jeune garçon de 20 ans sous le nom de Espoir Lumengo. On l'appelle les geeks pour sa passion sur les innovations digitales. Il est passionné par l'informatique, l'intelligence artificielle et les digitales. Espoir Lumengo, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Clostevi.
Est-ce que tu vas bien?
Oui, c'est moi, ça va. Espoir et vous également.
Oui, ça va très bien et je suis très content d'être resté voir ce soir dans YouJob, la passerelle des professionnels. On a entendu parler de toi et on était très content de t'inviter en tout cas à venir partager également ton expérience hein, dans YouJob. Alors tu as plus de 2 ans d'expérience maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu évolues aujourd'hui dans les secteurs de AI Solutions. Tu es également dans le Digital Growth et de l'IT. Mais également, tu as une ambition d'utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour créer des solutions innovantes et à fort impact. Tu es aussi certifié Google en intelligence artificielle et au cours de ton parcours, tu as eu l'opportunité de remporter l'année passée, en 2025, un concours organisé par CyberDev qui a réuni plusieurs professionnels congolais et passionnés évoluant dans les secteurs de l'IA, les tout à 20 ans, mon cher. Il faut rappeler que tu es déjà un diplôme de mémoire, un diplôme universitaire. Comment tu as fait tout ça hein? On te surnomme les geeks, toutes ces choses à 20 ans. Comment c'est possible? D'abord, on commence d'abord avec ton surnom, les geeks. Pourquoi donc?
Les noms de geeks, ça provient du fait que je suis trop passionné de nouvelles technologies. Également un passionné de l'informatique et tout ce qui va avec. Et du côté où...
Ces surnoms, ça a commencé quand?
Pardon?
C'est depuis quand qu'on t'est surnommé les geeks?
Oh, ça fait déjà un peu de 4 ans.
Là, tu es encore à l'université.
Ouais. Pas encore. Déjà, j'étais déjà passionné par l'informatique depuis longtemps. Depuis, si je pourrais dire, depuis l'enfance. Ça commence depuis la famille, on parle. On te dit, toi, tu vas faire l'informatique, on te guide. C'est une passion pour moi déjà depuis tout petit que j'ai grandi avec.
Et comment tu as développé cette passion? Ça a commencé où? Tu dis que depuis que tu étais très, très petit, c'est parce que tu étais dans un environnement où il y avait beaucoup d'ordinateurs ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu?
C'est juste trop de curiosité. Vous voyez, en famille, l'ordinateur qui est là parfois, on te laisse. Tu veux toucher à tout, expérimenter à tout parfois, vous voyez, en famille. La télé, plein de choses.
Dans cette enfance, c'est à partir de quel moment tu t'es rendu compte que les digitales, les réseaux sociaux, l'internet, l'informatique, c'était une passion pour toi?
Bah déjà, moi, déjà à partir de 6e primaire, déjà, j'étais bon. Déjà, même au quartier, on connaît quand même, on te dit, telle personne que je vais te voir, j'ai un problème avec mon téléphone, patati patata. En la famille, tout le monde te connaît quand même. On sait que s'il y a un problème à la maison, on cherche toujours espoir. C'est comme ça que j'ai développé cette passion-là. Depuis tout petit, j'ai essayé de faire des recherches, toujours être connecté. Toujours être là. Il y avait des gens que j'ai regardé également, qui étaient les grands du quartier également, qui étaient de l'informatique, qui inspiraient, qui parlaient de l'informatique et tout. Et en famille également, c'était du soutien auprès des membres de famille également. Il y a les papas qui évoluaient également, pas dans ça, mais au moins, il avait l'ordinateur. Quand il revenait à la maison, il essayait quand même de nous laisser regarder un peu de films, essayer un peu de jouer avec. Ouais. Ce qui a fait en sorte que je développe plus cette passion-là et avancer un peu plus vite.
Alors ça commence lorsque tu es encore à l'école primaire, ouais. Ça avance jusqu'à l'école secondaire et tu arrives aux humanités. Qu'est-ce que tu as fait comme option?
Aux humanités, j'ai fait commercial-gestion. Commercial-gestion déjà, à partir du... Déjà commercial aujourd'hui, ça parle trop de l'informatique également à l'intérieur.
C'était aussi à cause de cette passion que tu as. C'est toi qui avais pris la décision, ce sont tes parents qui t'avaient orienté.
C'était moi-même. À la base, je devais être médecin. Il y avait une passion pour devenir médecin un jour. Mais arrivé vers... 4e, 5e, je me suis dit, bon, je dois m'orienter peut-être à l'informatique. Première, secondaire, deuxième, secondaire, déjà, j'avais déjà l'ambition de faire l'informatique. Et c'est par là que je me suis orienté vers l'option des commerciales et gestion. Et c'est par là que tout a commencé. j'ai commencé à expérimenter, à utiliser quand même mon ordinateur un peu plus, c'est-à-dire vivre dans un environnement où je sentais que j'ai mon ordinateur, expérimenter, faire des erreurs et plein de choses et tout. C'est comme ça que tout a commencé.
Et par la suite, tu te retrouvais à l'université à faire quoi?
Voilà, à l'université, je suis arrivé à l'université, j'ai fait les réseaux informatiques, c'est-à-dire à l'IEC, il y a la filière des réseaux informatiques, c'est par là que je me suis lancé sur ça. Et tout a commencé par là. Mais du côté, par exemple, il y a déjà... Déjà, ça, c'est une histoire que je n'ai presque pas trop parlé. Je n'ai jamais parlé de ça, pardon. Tout a commencé avec un ami un jour. J'ai expérimenté les outils. On parlait de l'IA, l'arrivée des... 2022, il y avait l'arrivée des chats GPT sur les marchés. Tout a basculé, tout le monde parlait de l'IA. Mais moi, je ne savais pas trop c'était quoi vraiment ça. Et je me suis mis à expérimenter, faire des erreurs, suivre des formations et plein de choses. Et un jour, j'ai dit à un ami... que moi, je devais parler de l'IA. Je vais parler de l'IA où je devais me positionner comme parmi des gens qui parlent de l'IA, des gens qui expérimentent l'IA, des gens qui maîtrisent l'IA. C'est par là que tout a commencé. J'ai suivi des formations, et plein de formations chez Google et plein d'autres. J'ai eu le temps de lire beaucoup d'articles, suivi des tutoriels, payé des formations et plein de choses et tout.
Magnifique, et tu es déjà diplômé d'université à seulement 20 ans. Comment c'est possible? À 20 ans, on peut avoir un diplôme. Tu as fait combien d'années à l'université?
3 ans.
3 ans à l'université, ouais. Et tu as obtenu ton diplôme d'état à quel âge?
À 16 ans. 16 ans déjà, j'étais diplômé.
Donc à 19 ans, tu as été diplômé d'université.
Ouais. C'est-à-dire...
Mais comment à 16 ans, tu as déjà ton diplôme? Tu t'es inscrit, on en t'a vrai... inscrit à l'école primaire en vrai, à 4 ans, à 3 ans quoi.
Exactement, en vrai, moi j'ai pas commencé l'école comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait l'école maternelle mais j'ai pas terminé. J'avais abandonné carrément, je voulais suivre les vieilles du quartier qui partaient à l'école, je voulais leur suivre. Les grands frères, je devais leur suivre pour aller avec à l'école et tout le temps. Et c'est par là que tout a commencé. J'ai aussi commencé mon école primaire. À 4 ans déjà, j'étais à l'école primaire. Et c'est comme ça.
Alors, ta passion, c'est l'informatique, les digitales, mais surtout l'intelligence artificielle. Exactement. À ton âge, la passion d'autres jeunes, c'est les jeux vidéo. Espoir, est-ce que tu le sais quand même?
Oh ouais, là, ça, je le sais.
Et toi, tu ne joues pas aux jeux vidéo, la PlayStation?
J'y joue, il y a un tas pour tout.
Ouais, comment tu fais pour canaliser ça? Parce que parfois, les jeux peuvent être addictifs. Quand tu commences à jouer, tu n'as pas envie d'arrêter. Mais comment tu fais pour discipliner et organiser ton temps? Tu t'es dit, non, ça, c'est les temps pour aller jouer à la PlayStation. Et ça, c'est les temps pour aller mener des recherches et développer mes compétences, mes connaissances sur les digital, l'IA.
En vrai, c'est juste par rapport à... Bon, moi, de mon côté, j'essaie quand même de parler également avec des gens qui volent dans ça, vous voyez. Cette passion-là de voir au moins d'autres personnes qui avancent, qui disent, je suis déterminé, je dois atteindre tel objectif. Donc, juste ça. À côté des jeux, il y a un tas pour tout. C'est-à-dire, je peux me dire, bon, aujourd'hui, je vais juste prendre 10 minutes ou 20 minutes, voire même une heure. Je joue à la play. Dès que je sais qu'à telle heure, je dois apprendre, c'est comme ça. C'est-à-dire... J'ai presque tout planifié, même dans mon téléphone, parfois, il m'arrive parfois d'avoir des rappels, telle heure, tu dois faire ça. C'est comme ça, juste que j'ai essayé de mettre un peu plus de discipline sur ce côté-là, essayer d'améliorer les choses.
Ouais. Est-ce que c'est sous influence de tes parents ou c'est toi-même qui t'es autodiscipliné depuis toujours?
En vrai, c'est, du côté-là, il y a également les parents qui ont fait une grande partie des choses. Hein. Les parents nous ont aidés avec beaucoup de conseils. Ils nous ont aidé à suivre, surtout moi par exemple, de mon côté, je me dis toujours, je devais normalement être médecin un jour. Parce que les parents me disaient de devenir médecin un jour, mais après un moment, quand ils ont compris également que moi je partais trop dans les trucs de la technologie, j'étais trop fort dans ça, ils m'ont conseillé également de partir. Quand j'ai l'air de parler de ma passion, ils n'avaient pas hésité et tout. Donc c'est surtout les parents également, leurs conseils et leur discipline. Vous allez voir à la maison quand on était petit, il y avait un temps pour tout, on te dit telle heure à telle heure. Tu regardes la télé, telle heure à telle heure, on te dit, tu dois étudier et tout, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai essayé un peu d'avancer. Et j'ai aussi eu cette chance-là, je sais que pour plusieurs personnes, dans notre époque, avoir un téléphone, c'était quand même une grande possibilité ou c'était quand même quelque chose de plus mieux quand on était tout petit. J'ai eu la chance d'avoir les téléphones un peu plus jeunes, mais pas pour jouer seulement. C'est-à-dire, les téléphones n'étaient pas pour jouer, c'est-à-dire, on m'avait remis les téléphones pour faire des recherches, pour apprendre. Et cette passion-là, ça m'aidait plus, vous voyez. Ça m'aidait plus à avancer.
Donc. L'année passée, tu as réussi à remporter le concours CyberDef devant tes aînés, des personnes qui étaient plus âgées que toi. Comment tu as fait?
En vrai, c'était un défi énorme. On devait travailler sur un projet. Il y avait un défi, c'est-à-dire, on devait partir sur la création de vidéos IA, un truc comme ça. Créer une vidéo IA qui parlait d'un sujet où les jurys devaient voter à 50%. Il y avait également la partie où les membres ou les participants de cette conférence-là devaient également porter leur choix et tout. Donc, c'était pas si facile. Déjà, au début, c'était un grand défi pour moi. C'était la première fois pour moi de faire face quand même à une activité qui était plus grande que ça. C'est-à-dire une activité où ça rassemblait plusieurs personnalités, des grandes personnalités et tout. Donc, j'ai quand même essayé de travailler. J'ai fait ce qui était nécessaire et tout. Donc, les nuits blanches, une petite histoire. Déjà, la première chose que j'avais fait, c'était pas très, très bien. J'ai créé une vidéo et tout était OK. Mais apparemment, c'était pas trop waouh et tout. J'ai essayé de consulter certaines personnes et ça... Ce n'était pas si waouh. Donc, c'est-à-dire, j'ai dû recommencer.
Donc, pendant la préparation, tu étais en train de travailler sur un truc qui n'était pas à la hauteur.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, j'ai dû consulter quand même les membres de la famille. Comme on est en famille, tu demandes qu'est-ce que vous pensez de ça. Ils m'ont donné leur avis. J'ai essayé d'affiner, essayé d'avancer. C'est comme ça. Tout est parti trop vite et tout.
Tu penses que c'est parce que tu as un sens de l'écoute que tu avances?
Ouais, il y a ce côté-là. J'essaie quand même d'écouter les avis des autres. Ça fait partie des qualités d'une personne qui fait quand même évoluer et tout.
Alors, qu'est-ce que ce prix, le fait de gagner ces concours, a changé dans ta vie, dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a changé?
Dans ma carrière, ça m'a encore beaucoup motivé de voir qu'il y avait des gens qui croyaient en moi. Il y avait quand même la passion. En dehors de la passion, il y avait quand même ces côtés où je me suis mis au travail pour travailler sur un projet qui a marqué plusieurs personnes. Moi, ça m'avait motivé de voir que je dois encore avancer. Il y a des gens qui m'ont félicité. J'ai eu les encouragements de plusieurs personnes. C'est comme ça.
Félicitations. Et on espère que tu en auras. Tu vas en gagner plusieurs autres.
Ouais, merci.
Aujourd'hui, beaucoup. Tu es dans le domaine professionnel. Tu as quitté l'université. Tu travailles pour Dwelt Immo, une agence immobilière. Comment les gens perçoivent le métier lié à l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel? Selon ton expérience?
Selon mon expérience, surtout, c'est un fait qui est généralisé. Les gens ont une image de l'IA comme si c'était quelque chose qui était uniquement réservé aux gens qui n'avaient pas assez de compétences ou des gens qui ne sont pas si intelligents. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pour moi, c'est justement un outil qui nous aide à être encore plus productif et avoir un peu plus de résultats. Ouais. Mais généralement, plusieurs personnes ont cette image de l'IA comme seulement un robot, c'est-à-dire quelque chose où on donne et ça fait tout. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pas.
Et comment tu réagis lorsque les gens perçoivent ainsi ton domaine, ton métier?
En vrai, j'essaie quand même de leur expliquer, j'essaie quand même de faire ma part des choses, c'est-à-dire leur parler, leur dire, leur expliquer quand même comment est-ce que ça fonctionne. Je leur explique. Déjà, de ce côté-là, utiliser l'IA, c'est pas ça les problèmes, vous voyez. En vrai, c'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est de comment est-ce que tu l'utilises déjà. Bien qu'il y a des gens qui utilisent l'IA d'une manière où ils laissent tout et l'IA gérer et tout. Mais il y a aussi ce côté-là où les gens utilisent l'IA d'une manière qui est plus professionnelle, d'une manière qui est vraiment très bien maîtrisée, d'une manière qui est conseillée. Parce que déjà, à la base, lorsqu'il y a eu la création de l'arrivée de l'IA déjà sur les marchés, il y avait une promesse, c'est d'aider les professionnels à être plus productifs. Ouais, c'était ça comme objectif principal de l'IA déjà. Et pour moi, j'essaie quand même de dire aux gens, au lieu d'utiliser l'IA comme outil de remplacement ou comme outil qui fait à 100% le travail ou seulement comme outil simple, on peut l'utiliser comme un outil de productivité.
Mais il y a également cette dimension où tu es très jeune. Comment les gens perçoivent, comment est-ce que les gens te regardent lorsqu'ils te rencontrent? Comment est-ce que les aînés te perçoivent? Est-ce que ils ont quand même un regard rond ou ils te regardent avec beaucoup de respect?
Ah ouais, en vrai c'est généralement je croise des gens qui me conseillent encore plus d'avancer sur ça. Mais pour certaines personnes également, tu vois, par exemple au début il y avait des gens qui... Quand je parlais de l'IA au début, il y avait des gens qui prenaient ça vraiment comme c'était un sujet tabou. Vous voyez, comme pour certaines personnes, c'était simplement un gadget, un outil qui est venu remplacer l'humain.
Moi, quand vous voyez... Donc, quelque part, il est découragé. Ça t'a découragé.
Ouais. C'était décourageant quand même de voir cet avis-là, avoir l'avis des gens qui parlaient de ça. Mais quand même, on a essayé quand même d'avancer dans ça, essayer quand même de parler également sur ça, essayer de réveiller la conscience et tout. Et grâce à ça également, j'ai eu l'opportunité plusieurs fois d'intervenir dans plusieurs formations en tant que coach et tout. Ce qui m'a aidé encore à parler de cette vision-là ou à essayer d'aider encore les jeunes à avoir ou les professionnels à avoir une vision bien plus meilleure de l'IA et tout. C'est ça.
en tant que coach, qu'est-ce que ça t'a fait, âgé de 20 ans, être coach parfois de personnes plus âgées que toi?
Ah, au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile, mais aujourd'hui, ça me rend heureux quand même d'être devant des grandes personnes qui ont de l'admiration envers moi. Ça me rend heureux aussi de partager tout ce qui est comme connaissance envers les autres. Aujourd'hui, j'ai eu l'expérience d'intervenir dans plusieurs formations et former plus de, si je ne me trompe pas, plus de 500 personnes, si j'essaierai peut-être d'aller 1000 si je ne me trompe pas. Et c'est quand même pour moi une fierté quand même.
On entend partout que l'IA, l'intelligence artificielle, va supprimer les emplois en tant que jeune. Hein, on dit que l'IA va supprimer des emplois, mais en tant que jeune spécialiste, qu'est-ce que tu penses?
En vrai, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a la peur. Il y a la peur des gens qui parlent que l'IA va supprimer les emplois. Certes, il y aura des emplois qui seront peut-être bouleversés. Mais en dehors d'ici également, il y a...
Pas supprimer, mais bouleverser.
Ouais, supprimer également, il y aura des emplois qui vont faire face à ça, mais c'est pas ça les problèmes. Aujourd'hui, les vrais sujets, d'abord, c'est de savoir comment est-ce que je vais utiliser l'IA pour rester compétitif sur les marchés. Parce que dans les années qui arrivent, ça ne sera pas seulement l'IA supprimer les marchés, mais il y aura également une partie où l'IA va créer des emplois. Vous voyez, aujourd'hui, certes, il y a des métiers aujourd'hui, on peut dire que l'IA menace aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement ces métiers-là, parce que déjà pour moi, je me dis que tout ce qui est comme métier qui s'est fait dans l'ordinateur sera challengé par l'IA dans les années qui arrivent. Vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire, juste, il faut savoir comment implémenter l'IA ou comment tu vas rester compétitif. Ce n'est pas l'IA qui va venir casser tout ce qui est comme marché, parce qu'il y aura la créativité humaine qui sera encore une valeur ajoutée, mais il faut juste savoir qui vont remplacer les autres quand l'IA va embrouiller les marchés et tout. Parce que déjà, ceux qui maîtriseront l'IA vont rester compétitifs sur les marchés, c'est-à-dire ceux qui savent utiliser l'IA vont rester compétitifs sur les marchés, parce que c'est un outil qui transforme déjà aujourd'hui le travail, la vie professionnelle, tout est transformé aujourd'hui, bien que pour certains ils ne se rendent pas trop compte déjà, mais pour moi je me dis que ça a transformé plein de choses aujourd'hui. On va se rendre compte peut-être sur ça dans les années qui arrivent et tout.
Alors, tu as dit qu'il y a plusieurs domaines, plusieurs métiers que l'IA pourra créer. Et toi, ta spécialité, tu te présentes comme un spécialiste des AI solutions. C'est quoi concrètement?
En vrai, je développe des solutions IA, c'est-à-dire en partant de la création des agents IA, automatisation IA et également, j'offre comme prestataire IA et tout. C'est-à-dire, j'offre mes services en IA. C'est comme ça.
Tu développes des solutions?
Ouais, je développe des solutions IA, c'est-à-dire automatisation IA, agent IA.
Et comment tu as fait pour apprendre davantage sur l'intelligence artificielle? Tout le monde aujourd'hui tape deux phrases dans ChatGPT et se proclame expert en IA. Alors, quelle est la vraie différence entre un amateur et un professionnel? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour devenir professionnel de l'IA?
En vrai...
C'est parce que tu coaches les autres?
Non, c'est pas ça. En vrai... Il y a ces côtés-là où on peut poser une question à l'IA et se dire que je maîtrise l'IA, mais alors que c'est pas ça. On peut avoir les mêmes outils, mais on n'aura pas les mêmes résultats forcément, parce qu'il y a une différence entre l'usage simplement et une personne qui sait quand même comment est-ce que ça fonctionne quand même. De mon côté, par exemple, j'ai suivi plusieurs formations en IA et j'ai plusieurs certifications. Par exemple, j'ai une certification chez Google en IA et tout. J'ai suivi plusieurs formations dans lesquelles j'ai expérimenté. J'ai quand même mis le temps d'être dedans dans plusieurs expériences, dans plusieurs choses et tout. C'est ça qui fait en sorte cette différence-là. Avec plusieurs personnes, certes, ils utilisent l'IA. Ils peuvent poser une question, c'est bon, ça ne s'arrête pas là. L'IA n'est pas seulement pour utiliser, mais c'est savoir aussi comment l'intégrer dans plusieurs domaines, vous voyez. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines personnes, juste l'effet d'écrire à ChatGPT, génère-moi ça. Il a une image, il s'est dit non, je suis devenu un graphiste. Parce qu'il a généré une affiche avec l'IA, mais c'est pas ça, ouais. C'est juste que là, c'est simplement l'effet de l'utiliser simplement. Mais il y a le côté où tu maîtrises quand même comment ça fonctionne. Tu sais que si j'écris ça, j'aurai ça. Comment écrire une bonne requête, par exemple. Tu sais comment écrire une bonne requête, tu sais quel outil utiliser, par exemple, à tel moment. Tu sais quelle tâche, quoi faire et tout. C'est comme ça.
Et tout ça, pour le maîtriser, il faut forcément suivre une formation?
Bon, oui, je dirais oui. Il y a ces côtés-là. Tu peux suivre une formation aujourd'hui, parce que par exemple, moi de mon côté, j'ai suivi plusieurs formations, mais c'est pas ça qui a changé en sorte, parce qu'il y a des formations que tu peux suivre, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'expérimentes pas. Par exemple, avec les outils, il y a aujourd'hui, chaque jour, il y a des mises à jour, il y a de l'avancée chaque jour, vous voyez. C'est-à-dire, il y a les côtés où tu utilises, il y a les côtés où tu apprends. En dehors de l'apprentissage, il y a la pratique.
L'apprentissage et la pratique sont donc deux choses clés. Il y en a certains également qui suivent des formations, mais juste pour faire beau, hein, pour avoir des papiers,
exactement.
Mais qui ne pratiquent pas. Mais d'autres, par contre, qui développent en réalité ces théories en pratique. Alors, on va imaginer deux dossiers dans ton bureau. L'un est rédigé entièrement par un être humain, après trois nuits blanches, sans dormir. L'autre est généré en 30 secondes par une IA ultra, très puissante. Et est-ce qu'ils ont la même valeur, selon toi ?
Non, moi je dirais non. Je dirais pas non, dans le sens où la personne qui a écrit a mal écrit, ou la personne qui a utilisé l'IA a bien écrit, déjà. Déjà, il faut savoir un truc, même avec l'IA, la partie où on a suivi une logique quand même. La partie où j'ai réfléchi, j'utilise l'IA, j'ai confirmé, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a quand même les process à suivre. C'est-à-dire, moi, je me dis qu'il y a, par exemple, une personne qui maîtrise l'IA, qui maîtrise son domaine. Quand il utilise l'IA, c'est différent par rapport à une personne qui ne maîtrise pas son domaine, qui laisse tout à l'IA gérer. Parce que l'IA, en dehors de donner les bonnes réponses, il y a également la partie où ses réponses ne sont pas très bonnes. Ouais. Il y a la partie où les outils hallucinent également. C'est-à-dire, en dehors de ça, il faut quand même avoir ces côtés-là des critiques. Également, ces côtés où tu te dis, j'utilise l'IA comme outil de productivité, c'est-à-dire, pas pour me remplacer. J'ai quand même les savoirs, je sais c'est quoi je vais faire. L'IA va m'aider peut-être à l'amplifier. Parce que déjà, si tu combines l'IA plus l'IA, c'est-à-dire l'intelligence humaine plus l'intelligence artificielle, vous allez voir que ça va... Ce que vous aurez comme résultat sera très très différent et ça sera très meilleur.
Savoir combiner l'IH, l'intelligence humaine, et l'IA, l'intelligence artificielle, pour avoir des résultats encore plus efficaces.
Exactement.
Donc, ne pas délaisser l'intelligence humaine pour l'intelligence artificielle, mais ne pas également négliger l'intelligence artificielle uniquement pour l'intelligence humaine.
Exactement. Exactement, c'est ça.
Donc, tu penses que alors, est-ce que tu ne trouves pas qu'on assiste aujourd'hui à une génération copier-coller où l'intelligence artificielle commence à remplacer la sueur et la réflexion? Parce que aujourd'hui,
on a des prompts.
Tu peux dire ce que tu as dit, mais on a des prompts.
Exactement.
J'entre sur Gemini, sur ChatGPT, sur Perplexity. J'ai déjà un prompt bien spécifié et je viens juste, je tape toi et j'ai tout ce que je veux.
Exactement.
Quelque part, si aujourd'hui j'ai les résultats, demain je me dirais, ah non, demain également j'attendrai juste, je vais juste taper mon prompt et ça marche.
Exactement. Là c'est vrai, ce côté-là c'est vrai, mais c'est ça qui fait quand même la différence entre une personne qui utilise l'IA et une personne qui maîtrise quand même l'IA dans son domaine. Vous voyez, c'est exactement ça qui fait la différence. Aujourd'hui, on voit quand même, on peut se dire aujourd'hui, une personne qui a écrit les tests, tu vas te dire peut-être ça c'est les tests de l'IA. Mais il y aura une personne peut-être qui a écrit le test avec l'IA, tu vas te dire que ça, c'est pas de l'IA. Pourquoi ? Parce que lui, il a eu peut-être le temps de l'affiner, il a eu le temps d'améliorer, de faire ça. Mais on est quand même dans une génération aujourd'hui où il y a quand même ce côté-là qui arrive aujourd'hui, il y a trop du copier-coller, tout ce qu'il y a dans. Et on prend, on publie, on fait ce qu'on veut faire. C'est pour ça que pour certaines personnes aujourd'hui, ils vont dire que l'IA n'est pas si intelligente. Ou pour certaines personnes, ils vont dire... en vrai, l'IA est trop bête. Mais Orc, c'est pas ça. C'est juste que t'as pas eu le temps de faire. Si je pourrais dire, t'as pas eu le temps de critiquer ce qui est arrivé ici. Nous, humains, on doit garder ces côtés-là où on a quand même tendance à critiquer ce que l'IA nous donne. Vous voyez ? On reçoit quand même les résultats, mais on prend quand même le temps d'analyser si c'est bon ou pas. C'est comme ça. C'est ça qui fait quand même la différence.
Alors aujourd'hui, tu es également dans le marketing, communication digitale. Tu travailles pour une agence d'immobilier. Dans la création des contenus aujourd'hui, on remarque quand même des contenus générés par l'IA qui partent dans tous les sens. Qu'est-ce que tu conseilles aux créateurs et comment toi-même tu crées des contenus avec l'IA ? Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de perdre un peu l'essence de l'originalité, de l'authenticité et avec les contenus qu'on génère par l'IA ?
En vrai... avec les contenus régénérés par l'IA, c'est pas ça en vrai. Pour moi, c'est pas ça le plus grand problème. Le problème, c'est d'abord comment est-ce que toi tu l'utilises déjà. Généralement, les gens vont prendre, laisser l'IA gérer tout ce qui est comme calendrier éditorial, par exemple. Tu donnes à l'IA gérer tout ce qui est comme calendrier éditorial. Déjà, l'IA peut-être ne connaît pas ta cible, déjà, par exemple. Ne connaît pas déjà les marchés, ne connaît pas les réalités du terrain, ne connaît pas ce qui se passe réellement. Vous voyez ? Mais il faut quand même essayer. Peut-être, si tu as. Pour moi, si je pourrais conseiller, je pourrais donner un petit conseil, c'est d'abord d'avoir ces côtés-là où tu travailles toi-même. Et essayer peut-être d'affiner avec l'IA. C'est comme ça que tu vas faire la différence. C'est comme ça que tu vas.
Mais une IA peut imiter une voix, peut même générer un texte.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses qu'elle peut capturer l'âme, même si tu rajoutes ses côtés humains? Est-ce que l'IA peut capturer l'humour? L'IA peut capturer la culture d'un vrai créateur?
Pour l'instant, c'est pas vraiment au top. Mais je pense qu'avec l'État, ça arrivera. Avec les temps, ça arrivera. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les IA, avant chaque jour, il y a des mises à jour. Il y a des choses où, avant, on parlait, on n'essayait pas de parler de ça. C'est-à-dire, on parlait que l'IA faisait très, très mal ça. Mais aujourd'hui, on peut voir, il y a des voix qui sont clonées. Il y a des images qui sont générées à la perfection. Ouais. Tout ça, ça ne se laisse même plus voir que ça, c'est de l'IA parfois. C'est comme ça. Avec les temps, il y aura quand même, ces côtés-là qui va encore s'amplifier plus. C'est pour ça, moi. S'il y a un conseil, il faut toujours garder ces côtés-là de l'originalité. Toujours essayer d'avoir cette créativité-là. Parce qu'en vrai, l'IA, aujourd'hui, on n'est pas dans les tops des tops. C'est-à-dire, l'IA est comme un outil ou comme un assistant. On ne doit pas les prendre pour nous remplacer quand même. On doit quand même garder ces côtés-là humains, critiques.
En même temps, en tant que graphiste, est-ce qu'il y a certaines tâches, certaines affiches que tu t'es dit, non, je ne vais pas utiliser Photoshop, je vais générer ça avec...
Non, je n'ai jamais fait ça. En vrai, mais c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Pour certaines personnes qui n'ont pas assez de budget quand même, ils peuvent quand même se les permettre de générer une affiche avec l'IA. Bien que pour certains qui veulent quand même les pros, ils peuvent se les permettre. Et c'est par là que moi je me dis également que l'IA est en train de transformer les métiers. Je vais prendre l'exemple du métier des graphistes aujourd'hui. On peut se dire que l'IA n'a pas remplacé les graphistes, bien sûr, c'est vrai. On les voit tous, l'IA n'a pas remplacé à 100% les graphistes, mais au moins ça a impacté les marchés quand même. Parce qu'avant, peut-être, une personne pour faire l'affiche devait obligatoirement peut-être se tourner vers un graphiste, mais aujourd'hui quand même il y a l'IA. Il y a des gens qui s'en foutent de ça, c'est-à-dire, là, son affiche, c'est tout, ça suffit pour lui. Et ça impacte quand même les marchés, quand même. Ça impacte ces côtés-là.
Et pourquoi, personnellement, tu as dit que tu n'as jamais généré une image, une affiche
Parce que pour moi, y a une partie où j'utilise l'IA, mais pas dans l'essence de générer une affiche à 100%. C'est-à-dire, j'utilise comme outil qui m'aide, comme assistant. Par exemple, pour mes affiches, parfois, j'ai envie d'avoir les images qui sont trop top ou les images qui, comme moi, j'y vais dans mon esprit que ça soit. Vous voyez, parfois, on passe du temps à rechercher sur les banques d'images, sur les nets, à trop manipuler. Moi, parfois, je prends juste l'image, je combine, je donne mes explications. L'IA me génère l'image. Moi, je vais l'adapter maintenant selon mon travail. C'est comme ça. Également, la partie mood board, la partie inspiration, moi, je pars, je suis dans ça. Mais pour certaines personnes aujourd'hui, ils ont quand même du mal à bien intégrer l'IA dans les designs graphiques. Et moi, quand même, depuis le début de l'année, je crois bien que j'avais organisé une formation sur ça qui parlait de l'IA. Des design graphiques et tout. Oui, c'est exactement ça.
Dans 5 ans, espoir, en 2031 exactement, à quoi ressemblera le marché du travail à Kinshasa selon toi? Quels sont les métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus? Comment l'IA pourra vraiment impacter les marchés d'après, on va dire, tes projections?
Bon, d'après mes projections, il y a plaisir. Surtout pour moi, je crois que on peut partir de l'optique de ne pas remplacer les métiers déjà. pour ne pas dire remplacer les métiers, mais ça va impacter les marchés dans plusieurs secteurs déjà. Par exemple, je prends l'exemple, le design graphique aujourd'hui qui est déjà parmi, bien qu'on ne va pas se le dire quand même, mais c'est parmi des domaines où on parle tout le temps de l'IA, on parle tout le temps de l'IA et tout. Mais également les côtés où, avant peut-être, ça demandait l'indépendance, c'est-à-dire les côtés où ça apporte quand même de l'indépendance à certaines personnes pour garder leur budget quand même dans leur poche, c'est quand même normal. Mais dans les métiers qui peuvent être impactés, par exemple, je prends l'exemple des call centers. Je prends l'exemple, pas des call centers, dans le sens où des téléphones, il y a également des gens, des services support, vous voyez. Mm-hmm. Dans le sens où aujourd'hui, on peut créer l'argent IA. Par exemple, j'ai lancé une campagne. Avant, peut-être ça existait à ce que la personne puisse répondre à tout ce qui est comme message, commande et tout. Mais aujourd'hui, avec les IA, on peut créer un agent IA avec une automatisation qui est bien calée là. Dès qu'il y a les messages qui arrivent, l'IA répond, pas dans le sens où ça répond bizarrement, non. Ça répond dans les contextes, c'est-à-dire il y a une instruction qui est derrière, qui tourne, qui lui dit, dès que tu vois, par exemple, dans ton message, les mots facture, tu dois faire ça. C'est comme ça. Vous allez voir que dans les années qui arrivent maintenant, il y aura cet impact-là qui va un peu réduire les marchés. Vous allez voir que ça va un peu impacter certaines choses.
Et c'est plus des spécialistes du domaine qui vont se retrouver. Donc, tu te vois exactement. Millionnaire, en 2031 grâce à l'IA.
Espérons quand même. J'ai pu faire grâce, ouais. J'espère. L'IA va... Ça va encore faire chaud.
L'IA va faire rentrer beaucoup d'argent.
Ouais, ça va encore apporter beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font déjà beaucoup d'argent. Mais c'est sauf qu'ici, c'est pas... On n'est pas vraiment dans le digital à 100%. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu trop... Pas trop waouh. Mais aujourd'hui, il y a déjà l'IA qui impacte les marchés aujourd'hui, qui remplace aussi dans certains métiers de vie. Vous allez voir, dans les entreprises, ça remplace des gens.
Quel est le plus gros mythe, on va même dire la plus grosse erreur que les jeunes aujourd'hui font, pensant qu'il suffit d'utiliser l'IA pour devenir riche ou performant sans effort? On parle ici des gens, ils te disent, moi je me fais beaucoup d'argent avec l'IA. On voit les vidéos, ils te disent, moi, en tout cas, chaque mois, je me fais 5 000 $ avec l'IA. Chaque mois, je me fais 20 000 $ avec l'IA. Chaque mois, je me fais 100 000 $ avec l'IA. Mais quelles sont les erreurs ou les mythes que toi, tu as remarqué que les jeunes font en pensant qu'il suffit juste d'utiliser l'IA pour devenir riche ou même performant?
En vrai, c'est... Premièrement, d'abord, c'est de se former. C'est dire que non, si tu ne te formes pas, tu vas avancer. Et également, d'expérimenter. C'est-à-dire, tu te dis, non, moi, je vais faire beaucoup d'argent avec l'IA sans pour autant avoir peut-être le temps d'expérimenter. Également, c'est côté où tu te dis, moi, je vais faire l'argent avec l'IA juste parce que tu as suivi une formation et tu es resté sur ça. Alors que ce n'est pas ça. Avec les IA surtout, il faut toujours avancer, c'est-à-dire toujours apprendre et toujours chercher maintenant à avancer, toujours chercher maintenant à apprendre encore plus, vous voyez. Je dis, tu as appris comment générer l'image, mais dis-toi que dans 2 ou 3 mois, ça ne sera pas comme ça, ça va changer. C'est exactement ça qui fait en sorte. C'est-à-dire, n'est pas rester sur ses lauriers et se dire que non, avec l'IA, ce que j'ai appris, c'est déjà bon. Ce n'est pas ça.
Selon toi, espoir, tu penses qu'aujourd'hui, un jeune peut se faire un chiffre d'affaires de combien lorsqu'il est comme toi là, un professionnel du domaine de l'intelligence artificielle? Je pense que chaque mois il peut se faire une enveloppe de combien grâce seulement à l'IA?
Grâce seulement à l'IA.
Le maximum c'est combien, le minimum c'est combien?
Pour moi, je me dis qu'il y a une grande opportunité. Il peut aller dans les 5 000 $, même plus par mois. C'est juste qu'il... Surtout, il y a trop d'opportunités en termes de l'IA. Il y a trop d'opportunités que moi je vois aujourd'hui.
Quelles sont ces opportunités? Tu veux les garder pour toi-même? Les éditeurs qui te suivent?
Non, je n'ai pas les garder pour moi-même. Par exemple, je prends par exemple mon cas. J'ai travaillé aussi en tant que prestataire IA, c'est-à-dire la création, la partie où j'ai créé des vidéos. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont peut-être besoin des mini-vidéos IA.
Des vidéos générées par l'IA.
Je dis, c'est vraiment parmi des modèles de vidéos qui sont au top aujourd'hui.
Mais ça fait mal aux yeux, tu ne trouves pas?
Ça fait pas trop mal aux yeux. C'est juste qu'il y a pour certaines personnes qui font quand même des... Pas trop beau, c'est ça qui fait quand même mal aux yeux. Mais en vrai, c'est... Lorsque tu maîtrises, tu es dans les bains, tu vas voir qu'il y a plusieurs projets qui sont passés ici. Beaucoup de gens n'ont même pas compris que c'est des liens, mais c'est des liens qui sont derrière ça. Déjà, il y a la partie où tu peux travailler en tant que prestataire IA. C'est-à-dire, la partie où tu peux travailler en tant que quelqu'un qui crée des vidéos IA et tout. Et la partie où également, tu peux te dire, je vais automatiser les tâches de l'entreprise, par exemple. Et tu te dis, dans telle entreprise, moi, je vais leur proposer mes solutions IA. C'est-à-dire, au lieu qu'avant peut-être, ils prenaient 10 heures du temps peut-être à faire telle tâche, moi, je vais leur façonner maintenant à laisser cette tâche-là ou à déléguer cette tâche-là à l'IA pour avancer. C'est-à-dire, c'est comme ça. Tu peux vendre des solutions IA, des automatisations. Tu crées une automatisation. Tu peux les vendre entre 500, voire même 1 600 $. Je ne sais pas. Tu peux tout vendre comme ça. Également, la partie où tu te dis, tu as une compétence en IA. Tu dis non, peut-être tu peux te dire. Tu peux carrément former des gens sur l'IA aujourd'hui. Il y a les marchés qui.
Ah, ça te rapporte beaucoup d'argent, les formations.
Les formations, ça rapporte beaucoup d'argent. Pas seulement pour faire beau, mais lorsque tu as une compétence qui est vraie, tu veux partager avec les gens, ça rapporte quand même de l'argent. Ça fait quand même du bien quand même de partager ces côtés-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus besoin de seulement faire une formation en présentiel pour gagner de l'argent. Je n'ai plus besoin de ça. Également, la partie où il y a des plateformes aujourd'hui qui nous permettent de vendre les formations en produits digitaux, c'est-à-dire j'ai pu créer une formation et je les mets en vente, moi je suis là à la maison, je n'interviens plus, ça tourne, je me fais de l'argent, c'est comme ça.
Si un étudiant ou un jeune diplômé nous écoute en ce moment avec un vieux smartphone, hein, son téléphone, il a 0 budget mais une grosse envie de percer dans le digital, par quoi il commence demain matin?
Par quoi il commence demain matin? Par apprendre une compétence, pas une compétence seulement pour pour rester par une compétence qui, à partir des zéros, il peut aller très loin. C'est-à-dire une compétence qui peut lui permettre peut-être de gagner de l'argent. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple. Il peut avoir un téléphone, il s'est dit, moi aujourd'hui, je vais apprendre comment créer des vidéos IA. Il s'est dit, moi, il a déjà appris comment, il va suivre une formation, comment créer des vidéos IA. Il s'est dit, moi, je vais peut-être proposer mes services dans telle entreprise. Tu te dis, tu contactes l'entreprise, tu vas faire la prospection. C'est-à-dire, au début, ça ne sera pas trop wow. Au début, c'est... Il y a la partie où tu dois prospecter, tu dois chercher des gens. Mais après le temps, tu vas voir, il y aura maintenant la partie où ça sera inbound, c'est-à-dire, ils vont venir te chercher, tu proposes tes services, ça passe, c'est comme ça. Tu apprends une compétence qui est de très bonne qualité, tu te lances sans pour autant te dire, ne te limite pas. Aujourd'hui, il y a le digital qui est là. Dis-toi que si tu restes là où tu es sans pour autant montrer ce que tu sais faire, il n'y a personne qui saura que tu sais faire ça. Et tu dois montrer ce que tu sais faire. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas quand même te dire, je peux pas dire que c'est impossible, mais lorsque tu te dis que moi, aujourd'hui, je vais peut-être parler de tel sujet sur telle chose que je maîtrise, tu montres tes résultats, tu vas également gagner de l'argent avec ça. Moi, je n'avais pas cru qu'aujourd'hui, peut-être, j'essaierai dans les bons, c'est-à-dire au moins quand même, c'est faire de l'argent grâce à l'IA et tout. Avant, c'était pas si facile. Bien que j'avais cette ambition-là, j'avais cet objectif-là, aujourd'hui, ça va quand même, ça me rapporte.
Ça ressemblait à une blague, mais aujourd'hui, c'est toute une réalité.
Oui, exactement.
Et espoir, donc, tu fais de l'argent grâce à l'IA, c'est devenu ton travail.
Exactement.
Et bonne chance pour la suite. On espère bien qu'on te recevra prochainement dans une autre position encore meilleure. YouJob est très content de te recevoir aujourd'hui.
C'est un plaisir pour moi également d'être ici aujourd'hui avec vous.
Alors, on arrive déjà vers la fin de notre discussion du jour avec Espoir Lumengo. Mais on ne peut pas terminer YouJob sans la page offre d'emploi. Nous avons quelques offres d'emploi sur notre table. Ce soir, plusieurs offres d'emploi sont encore disponibles. Hein. D'abord, on parle d'Orange RTL RDC qui recrute. Donc, RTL recherche un professionnel ou une professionnelle qualifiée pour contribuer à la planification financière, à l'analyse de la performance et à l'élaboration de prévisions budgétaires, mais également à l'accompagnement des décisions stratégiques et des décisions stratégiques de l'entreprise. Et pour postuler, vous pouvez envoyer vos détails ou lire envoyer votre candidature par le mail emploi@cd.rtl.com. La date limite, c'est le 24 juillet, donc vous avez encore 3 jours pour envoyer votre candidature. Donc c'est le poste de contrôleur de gestion, en anglais Financial Planning Analysis. Donc, vous pouvez candidater pour, bien sûr, pourquoi pas tenter d'obtenir ces postes. À côté, il y a également une autre offre d'emploi. Ici, c'est Robank. Robank qui recrute un administrateur système Windows. Donc, si vous êtes un génie dans le système, dans les domaines de l'informatique, Robank recrute un administrateur système Windows. Et le lieu d'affectation, c'est Kinshasa. C'est donc, si vous êtes à Kinshasa, c'est plus favorable pour vous. L'aide limite, c'est le 25 juillet, donc encore 4 jours pour postuler. Et vous pouvez donc postuler au site https://shorturl.at/z0dba. Je vais reprendre https://shorturl.at/z0dba. url.at/zodba. Donc vous pouvez postuler jusqu'au 25 juillet. Encore une offre d'emploi chez Air Congo, d'ailleurs, qui recrute à 3 postes qui sont vacants en ce moment. Le premier poste, c'est celui des accounts payable. Le deuxième poste, c'est celui de flight audit. Et le troisième poste, c'est celui de l'auditeur de vente junior. Donc vous pouvez postuler maintenant sur les sites de Air Congo et pour tenter d'obtenir l'un de ces 3 postes. Et pour terminer, encore un poste lié au domaine informatique, c'est Equity BCDC qui est à la recherche d'un analyste en protection de données. Donc c'est dans l'entité de 6 System and Data Analytics. Et les lieux d'affectation, c'est à Kinshasa. C'est pour une seule personne. Donc, les types de contrats, c'est un CDI d'ailleurs. Donc, vous pouvez postuler et tenter d'obtenir ce poste. Le rôle du poste, c'est de garantir la protection, la confidentialité et l'utilisation responsable de données en assurant la conformité réglementaire, la maîtrise des risques et la mise en œuvre de contrôles robustes tout en favorisant la création des valeurs et la confiance des parties prenantes. Donc, vous pouvez postuler si vous pensez que ça vous intéresse et on espère bien que vous pourrez obtenir votre poste. Nous avons fait notre travail. Vous envoyez votre candidature à l'adresse électronique recruitment@equitybcdc.cd ou plus tard les 31 juillet pour obtenir ou tenter d'obtenir ces postes. Donc, c'était les offres d'emploi que nous avons cette semaine dans YouJob. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Notre invité dès ce soir, c'est Espoir Lumengo Legeek, jeune garçon de 20 ans qui est passionné du digital et aujourd'hui déjà devenu jeune spécialiste de l'intelligence artificielle. Il est en train de faire ses preuves, notamment en ayant gagné le concours CyberDef organisé l'année passée. Espoir, tu as un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui t'ont suivi ce soir?
Ouais, si j'avais un dernier mot ou un petit conseil, ça sera de ne pas avoir peur de l'IA, mais plutôt d'apprendre à l'utiliser. C'est ce que je pourrais dire en quelque sorte comme conclusion, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Espoir. On se retrouve prochainement. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce soir. J'espère que vous avez noté des très bonnes choses. On se retrouve à la prochaine, mardi prochain, avec une nouvelle thématique, un nouvel invité, mais également de nouvelles offres d'emploi.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.